cuse chiuse, ho un mare cuse chiuse, ma come ho una attività, ho una attività, ho una attività.
Quand tu dis que la police c'est des chiens, après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, en plus jamais la loi des drames. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams, mais flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif valable, on voit rien que derrière les vannes que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'aide nous perde son sang-froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait ta base.
Casseur, terroriste, salopard, sauvageon, est-ce que le compte est bon?
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît,
c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais le choix.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Libérez,
je dois m'évader,
ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Tout démonter, tout brûler.
Sortez les briquettes.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue au Murons des oreilles sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Les Murons des oreilles, c'est une émission anticarcérale contre la tôle et contre toutes les formes d'enfermement. Et c'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h sur Radio Kaléidoscope. Et c'est aussi disponible sur Internet, sur le blog Les Murons des oreilles tout attaché, noblogs.org. On a un petit peu de retard dans la mise en ligne des émissions, mais bientôt, normalement, elles devraient toutes être disponibles. Je vous donne avant de commencer l'émission les contacts si vous avez envie de nous écrire pour faire des remarques, des critiques ou pour nous faire connaître des infos. Donc c'est possible de nous écrire soit par courrier à l'adresse Les Murons des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Les Murons des Oreilles à Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Et sinon c'est possible de nous laisser des mails à l'adresse Les Murs, tout attaché, @riseup.net. Voilà, et alors du coup, aujourd'hui, ça va être une émission un peu particulière. On va d'abord faire quelques brèves, rapidement, des infos locales et puis des gens dont on avait envie de vous donner des infos. Et ensuite, on va écouter une longue interview de plus d'une demi-heure de Chloé Villain. Donc c'est une personne dont on a déjà parlé régulièrement dans cette émission et qu'on a réussi à avoir au téléphone récemment. Et du coup, là, on l'a enregistrée et donc on a fait une interview de une demi-heure avec elle et qu'on avait envie de diffuser. Et du coup, avant d'écouter cette interview, quelques infos récentes. Donc, on a entendu parler qu'à Vars, au début du mois, là, il y avait eu ce que la presse locale relate comme des agressions de matons. Donc, apparemment, il y a eu deux incidents, comme ils disent. Donc, un premier, le mercredi 2 octobre, où deux surveillants et une surveillante auraient été frappés à coups de pied et de poing par un détenu mineur, donc qui était au quartier mineur de Vars. Et qui apparemment aurait ensuite écopé de une semaine en cellule disciplinaire. Et le lendemain, pareil, il y a eu encore un officier de l'AP qui s'interposait entre des détenus mineurs et un enseignant et qui aurait également été frappé très violemment, nous dit la brève, le torchon local, par du coup un des mineurs en question. Et celui-ci a également été placé en cellule disciplinaire. Et évidemment, les syndicats de Maton s'offusquent et demandent le transfert immédiat des personnes impliquées dans ces incidents. Et du coup, on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment. Alors du coup, on est preneurs si vous avez des infos, si vous avez envie de nous en faire passer. En tout cas, on va essayer de se renseigner un peu plus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Vars à ce moment-là. Et également, dans les brèves, donc, on voulait donner un peu des infos de Corba. Donc Corba, on en parle souvent, puisque donc, c'est une prison ultra moderne, où c'est la prison de France où il y a le plus fort taux de suicide. Et ben, il y en a eu encore un, donc un détenu de 25 ans, qui purgeait une courte peine, qui était libérable en 2014 et qui s'est suicidé mercredi 2 octobre. Donc on imagine dans quel état psychologique il devait être pour se suicider alors qu'il était à moins d'un an de la sortie. Et du coup, ça en dit long sur les conditions de détention à Corba. Et d'ailleurs, les conditions de détention à Corba, c'est aussi... on interdit tous les gestes de solidarité de base. Et notamment, récemment, il y a eu des interpellations au parloir. Donc des personnes qui étaient venues voir un proche en prison et qui voulaient donc lui filer soit un peu de thunes, soit un peu de cannabis pour lui permettre de tenir à l'intérieur. Et du coup, les visiteuses et les détenus ont été tous appréhendés et ils paraissent au tribunal, puisque évidemment c'est interdit de donner de l'argent en liquide en prison, même si en prison tout se paye, ben, tu te démerdes pour avoir ton argent autrement qu'en liquide. Et évidemment aussi le cannabis est interdit en prison comme dans beaucoup d'autres lieux en France. Voilà donc pour les infos sur Corba. Et sinon, je voulais juste aussi faire une petite info sur Christine. Donc Christine, on en a beaucoup parlé dans cette émission. On a dit le mois passé qu'elle allait passer en procès le 19 septembre. Donc c'est fait. Donc elle passait en procès pour des histoires de mauvaises paroles par rapport à des matons et en général par rapport au fait qu'elle n'accepte pas la mainmise de l'administration pénitentiaire sur sa vie. Donc voilà, le procès, ça a été un procès expéditif où la justice et la paix ont bien réaffirmé leur pouvoir sur Christine. Et donc le rendu du procès, ce sera le 21 novembre. Du coup, on vous tiendra au courant à ce moment-là.
Oui, et moi, du coup, je voulais parler de Christophe Kidder. Donc après, je ne sais pas précisément si vous en avez parlé un peu l'an dernier ou quoi que ce soit. Donc pour situer un peu, Christophe Kidder est en prison depuis à présent 18 ans. Pour une peine de réclusion de 30 ans. Il a également 4 peines pour tentative d'évasion, donc une de 18 mois, une de 15 ans, une de 3 ans et une nouvelle de 15 ans. Donc il a pris l'année dernière à la cour d'assises du Rhône pour l'évasion de la centrale de Moulins. Ce qui fait donc un cumul de peines qui amène sa date de libération à 2052. Donc en gros, de ce qu'il explique, ça lui donnerait 81 ans le jour de sa sortie. Et donc, il avait écrit en juillet dernier un courrier à Christiane Taubira, qu'on ne va pas prendre la peine de présenter. Donc, l'été dernier, donc, je ne sais pas si vous l'aviez lu ou vous l'aviez évoqué, je ne sais pas comment ça s'est...
On n'avait pas lu la lettre, mais on avait parlé de lui au moment du procès à Lyon.
D'accord. Et ben donc, du coup, là, les dernières nouvelles sont qu'il a été transféré au centre de détention de Liancourt en régime strict de l'isolement total, avec des mesures de parloir hygiaphone, c'est-à-dire que tout contact avec avec ses proches, avec sa famille, se fait à travers une vitre hygiaphone, et donc il n'y a plus de contact physique avec les personnes qui sont quand même sa famille. Et les proches, du coup, et la famille de Christophe Kidder tendent à relier cette nouvelle mesure, ce changement de régime, avec justement ce courrier qu'il avait adressé à Christiane Taubira au mois de juillet, et dont, du coup, je vais vous lire un extrait. Je m'adresse à vous aujourd'hui, car vous représentez le pouvoir politique, et vous seul pouvez me tirer de cet imbroglio juridique, qui fait du total des peines d'évasion et des tentatives non confusionnales a priori, un quantum supérieur à la sentence initiale déjà démesurée. Ma question est simple, pourquoi le droit ne s'applique pas pour moi? Pourquoi le total de mes peines n'est pas ramené à 30 ans? Cette mesure me rendrait conditionnable dans 2 ou 3 ans. Madame, je refuse d'être condamnée à mort, il faut appeler un chat un chat. De mois en mois, d'année en année, on me laisse sans réponse. Je vous demande aujourd'hui de me dire clairement, franchement, ce qui m'attend. Je n'implore rien. La justice préfère les gens à genoux, ceux qui finissent par se taire, simplement parce qu'ils n'arrivent plus à parler. Je ne suis et je ne serai jamais dans cet état. Je me tiens en très bonne forme intellectuelle et physique. Je ne serai jamais un fantôme comme tant d'autres croisés dans les différents mouroirs, estampillés central, où j'ai été enfermé. Je ne suis ni suicidaire ni malade. Je ne ferai jamais de grève de la faim, ni ne me mutilerai. C'est dans cet état d'esprit que pour la première fois je m'adresse à la plus haute autorité. Dans 2 ans, ça fera 20 années de détention, je n'en ferai pas plus. Si les pouvoirs politiques et judiciaires faisaient la sourde oreille, je considérais toujours ces sentences comme une peine de mort. Comme tout être vivant, je ne me laisserai pas tuer sans me défendre. Comme je l'ai, en conclusion des débats de la cour d'assises de Lyon en avril dernier, sans emphase, sans forfanterie, je briserai ce que j'ai de meilleur en moi et je deviendrai ce que vous aurez fait de moi, ce que je n'ai jamais voulu être jusqu'à là, un être violent. Je suis conscient d'y rester en cas de non-considération des autorités. Je suis prêt. Madame, vous avez mon avenir et celui des gens qui m'aiment entre vos mains. Voilà, donc pour la famille de Christophe Kider et ses proches, c'est suite à ce courrier et donc du coup quand même un appel à la vie et à vouloir à un moment donné que les choses avancent dans sa situation, que la réponse immédiate du ministère et de Christiane Taubira a été une mesure d'isolement strict, c'est-à-dire aucun contact ni avec les proches donc en parloir ni avec aucun détenu. Ce qui est, je pense, une bonne réponse tout à fait adaptée à la demande qu'avait fait justement Christophe Kider. On les remercie.
Voilà, du coup, quand on parle de prison à visage humain, on voit ce que ça donne, les prisons à visage humain. C'est toujours plus de répression, toujours plus d'isolement. Avant de continuer, on va écouter un petit morceau de musique.
Oui, tout à fait. Et donc, en fait, on a choisi un morceau de Kylapé, qui s'appelle, qui est un rappeur grec, qui de son vrai nom s'appelle Pavlos Fissas, ou Fissas, et qui est un rappeur antifasciste grec qui a été assassiné le 17 septembre dernier par des fascistes de l'Aube Dorée, qui est le parti néofasciste grec. Et donc du coup, on a choisi de mettre un morceau en mémoire à lui. Je ne dirai pas le titre parce que je suis absolument incapable de le prononcer. Voilà.
Τσεκ, 1, 2, 3, η ομάδα όντως μία. Εσύ λέω 13 ζωντανά απ' το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Ιστορίες του και άλλα. Δεν βάζουμε μυαλό, μη μας το κάνουν μαρμελάδα. Εμείς ξέρουμε τι έκανε η κότα. Γιατί εκτός από αλήθειες είμαστε τα γεγονότα. Σε βλέπω τρώγεσαι για δεύτερο εμφύλιο. Μάθε πως εδώ δεν κεγόμαστε απ' τον ήλιο. Κι όσο γηπαιδικά φανατικός το κρατάς οπαδός. Προβλέπω το ίδιο γηπαιδικά να τις τρως. Συνεχώς ο ίδιος ρυθμός, μάλλον στο χάλασα. Πυροβολισμός και δυστυχώς ένα αεροπλάνο. Μόλις χάθηκε απ' το πλάνο, πες τους θα το βρουν. 23.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, 1, 2, 3, η ομάδα όντως μία. Εξήλων 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, 1, 2, 3, η ομάδα όντως μία. Εξήλων 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Εδώ είναι Πειραιάς. Εδώ είναι Ελλάδα, εδώ γράφουν ιστορίες, οι δρόμοι και όχι γάδα. Μπάτσος να δώσει μπάτσο, είναι βρώμικο μα φίλος. Αν δώσει φίλο, το λέμε ομοφιλόφιλο. Τι είσαι γκέι, στο είπα εδώ κάτω, ήλιος για τους άντρες. Ζουζουνάκι μου δεν γκέι. Κι αν με πουν και ομοφοβικό μαλάκα, δε φταίω που με κοιτάς στο μπούτσο και όχι στα μάτια. Εδώ είναι Κερατσίνη, Πειραιά, χειρονομιά, τα ταμπούρια και η πλατεία της κοκκινιάς. Και εσύ μου ζητάς διαγραφή όλων αυτών με μοιάζεις απλά παρανοϊκός μαλάκας. Αθήνα 2 θα τα λέμε από το τηλέφωνο. Αυτό μόλις μ' ακούστηκε κακόγουστο ανέκδοτο. Αφού τα αυτιά σου θα σου τα γαργαλάνε πάντα. Εκείνες οι φωνές που έξυπνουν ακόμα το ρεμπέτικο. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, 1, 2, 3, η ομάδα όντως μία. Εξήλων 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, 1, 2, 3, η ομάδα όντως μία.
σκοτώνονται καρδιά ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιάς, ανέκδοτο βασίλειο.
Voilà, et alors on va donc continuer cette émission en écoutant une interview de Chloé Villain. Donc Chloé Villain, c'est une détenue dont on a déjà parlé régulièrement dans cette émission. Donc c'est une détenue transsexuelle au centre de détention de Caen. On a déjà parlé parce que ça fait des années qu'elle mène son combat pour se faire accepter en tant que transsexuelle et du coup en tant que femme. Dans une administration pénitentiaire qui ne veut pas du tout entendre ça et qui lui en met plein la gueule. Et du coup, on a déjà parlé de plein de choses qu'elle avait vécues, un peu de la part des détenus et beaucoup de la part de la paix et notamment des matons qui lui en font voir régulièrement de toutes les couleurs. Et il se trouve que là, la semaine dernière, ou récemment en tout cas, elle avait une permission donc pour finir de se faire opérer, enfin plus exactement pour réparer une erreur que l'opération d'avant avait laissée. Et du coup, elle a profité de cette permission pour nous contacter par téléphone. Et du coup, on a profité de l'occasion pour faire une petite interview qu'on va vous proposer d'écouter, où du coup, elle revient un peu sur tout son parcours et puis sur sa situation actuelle. Et elle parle plus généralement de la situation en milieu carcéral et de la situation des trans en milieu carcéral.
Mieux maintenant que je suis opéré. Enfin, opéré. On n'entend pas l'opération comme on l'entend. Ils ont simplement réparé une erreur qu'un CHU a fait et que le CHU ne veut pas réparer. Donc ils ont accepté, eux, de faire la réparation. Je n'ai pas de vaginoplastie. Ils ont simplement... C'est-à-dire que le CHU de Caen, quand je l'ai coupé définitivement, le CHU de Caen a positionné l'urètre 7 à 10 cm trop haut. C'était inadmissible, intolérable, et puis pour aller aux toilettes, c'est impossible. J'explique pas comment je faisais. Bon, bref. Du coup, ils ont reconnu qu'ils avaient fait une erreur. Ils n'ont pas voulu faire la chirurgie réparatrice. Ils ont dit « débrouille-toi ». Je me suis débrouillé, j'ai trouvé le CHU du Havre, où là, ils ont bien voulu accepter gentiment de me mettre un petit peu plus au monde. L'opération a duré 5 heures.
Et t'es quand même soulagé?
Je vais mieux, beaucoup mieux. Parce que il a fait du mieux qu'il pouvait pour que ce soit présentable, pour que ça fasse quand même féminin, quoi. Donc il est certain que maintenant, dans mon cœur, c'est autre chose.
Parce que qu'est-ce que c'est dans ton cœur?
Je suis femme. Peu importe qui le pense ou qui pense l'inverse ou ce que les gens décident ou qui voient, c'est pas mon problème. Dans mon cœur, je suis femme. Si on m'accepte pas comme ça, je vois pas pourquoi moi j'accepterais les gens alors que moi je fais pas d'histoire. Les gens, ils nous regardent différentes, mais c'est leur regard qui font qu'on est différentes. Nous, on les regarde pas différents, on est femmes, voilà. Maintenant, les gens nous saluent du regard, ben, qu'on peut rien y faire. Mais en détention homme, ça le fait pas.
Et ça s'est bien passé avec le personnel de l'hôpital et tout?
Alors avec le personnel de l'hôpital, j'ai été accepté totalement, très aimable, très gentil. J'ai été tout de suite considéré comme une femme et tout, l'opération et tout, tous les soins, les pansements, les jours qu'ils ont passés, tout a été merveilleux. Et il n'y a pas photo.
Ça devait te faire du bien un peu, j'imagine.
Ça fait du bien quand on se réveille et qu'on se met à pleurer en disant « c'est fini, enfin ». Parce que ça fait quand même 2 ans que cette histoire elle traîne. Commencer un petit peu à venir invivable. On a frôlé, disons, on dira l'extinction, parce que c'est plus simple de s'éteindre pour ne plus souffrir que de continuer à souffrir face à des gens qui ont fait une erreur et qui ne veulent pas la réparer, alors qu'ils l'ont reconnu de plus.
Et du coup, là, après, quand tu vas ressortir, tu vas retourner en détention?
Oui, je repars aujourd'hui dans 1h30 à peu près. Je rentre, j'ai 5 heures pour rejoindre le centre de détention, et je rentre dans 5 heures là-bas, voilà.
Et comment ça s'est passé? Ils ont accepté facilement que tu partes comme ça pendant 10 jours de détention?
Non, ça s'est pas tout à fait passé tranquillement. C'est-à-dire qu'au début, bon, on interdisait des permissions parce qu'on ne veut pas, surtout pas qu'une trans apparaisse quoi, dans la vie, surtout venant d'un centre de détention. Donc forcément, au début, c'était embêtant. C'était que par extraction. Les extractions, une fois sur deux, parce que les surveillants ne voulaient pas m'emmener parce que j'étais en jupe. Bon, puis ils ont trouvé une solution. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des extractions de moi en jupe, eh ben écoute Chloé, démerde-toi à faire toi-même tes soins, comme ça nous on t'escorte plus, puis toi tu te soignes. Du coup maintenant j'ai plus de surveillance, j'ai en permission de faire soigner. C'est-à-dire que le CHU de Caen ne voulant pas m'opérer, fallait quand même bien quelqu'un qui soigne. Mais ce qu'ils ont fait, bien trouver une solution. Ils avaient prévu pour proposer le HSI de Rennes, parce que c'est un centre hospitalier qui s'occupe que des détenus, mais moi je leur ai dit, il n'y en est pas question. Écoutez, vous me donnez des permissions pour aller faire des expertises médicales à droite à gauche. Pour pourquoi j'accepterais de mettre une paire de menottes pour aller à Rennes pour faire soigner quelque chose qu'un CHU ici à 2 km ne veut pas réparer. J'ai dit que j'étais pas d'accord. Alors il m'a dit, ben, essaye de trouver un CHU. Ben, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai obtenu un rendez-vous, j'ai demandé une permission, puis ils m'ont laissé partir. Normalement, je devais rentrer vendredi. Mais l'opération ayant été beaucoup plus longue et compliquée que prévu, il fallait laisser le temps de dépansement à enlever et tout, voir quand si ça ne saigne pas, s'il n'y a pas d'hémorragie ni rien. Donc j'ai dû rester 4 jours de plus. Voilà.
Et on avait encore une autre question sur comment ça s'est passé quand tu étais à l'hôpital. Est-ce qu'il y avait des matons qui étaient là pour te surveiller ou pas?
Ah non, je suis venu en permission, il n'y a personne. Je suis descendu, je suis sorti, j'étais au champ, je suis revenu, je suis rentré dans ma chambre, je descends de temps en temps boire un café en bol à la cafétéria. Non, je suis venu en permission.
D'accord. Et les autres fois?
Les autres fois, c'était avec des menottes. Alors, forcément, ils étaient tous là. Et là, il ne faut pas rêver. La dernière fois, une des fois où je me souviens le pire, c'est qu'on m'a posé une sonde sans se demander pourquoi c'était bouché, alors que je venais de couper, alors forcément, c'était bouché. Ils m'ont posé une sonde à vif, ils m'ont enfoncé d'un grand coup, j'étais attaché avec la menotte, j'étais allongé par terre parce que je n'arrivais plus à tenir tellement que je souffrais. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et quand je leur ai dit de sortir, ils m'ont fait « Non, on va se tourner, mais on reste là. » Je vois pas comment j'aurais emmené le mur avec moi, mais bon, c'est comme ça. Quand j'étais en extraction, ils n'osaient pas me fouiller parce qu'ils savaient que d'office, je n'irais pas. C'est-à-dire que quand j'arrivais à l'extraction, bonjour, salut, bon ben on va te fouiller. Non. Ah si, on va te fouiller. Eh ben c'est tout, je n'y vais pas. Et puis voilà, comme ça, il n'y avait pas de fuite de force, mais j'allais pas au rendez-vous médical. Voilà.
Est-ce que tu penses que du coup, le fait que tu aies été aussi bien accueilli cette fois-ci à l'hôpital, c'est lié au fait que tu étais en permission et du coup peut-être important un peu moins le stigmate de prisonnière?
Oh oui, il n'y a même pas photo. Mais c'est certain, à partir du moment où tu arrives avec ton sac à main tranquille et ton petit sac de vêtements, et puis que tu viens de faire opérer, t'es quelqu'un de dehors. T'es quelqu'un qui n'est pas écrit sur ton front, prison. Mais comme ici, ils ont essayé de comprendre mon combat et le pourquoi, et ben quand ils ont tout lu, ce qu'on disait sur moi sur Internet et tout, mais ils ont dit, mais t'es pas morte là. Mais c'est inadmissible comment on te traite.
Et là, comment tu sens ton retour en détention?
Ouest France m'a un petit peu cassé du sucre sur le dos la semaine dernière, il y a 10 jours. Ils ont écrit un article sur Internet, où là, ils mettent pas trop de choses, ça m'arrange. Mais sur la presse écrite, ils ont écrit mon délit. Et moi, ça fait 16 ans que j'en parle plus. Donc, ils ont mis ma vie en danger. Parce qu'au centre de détention, maintenant, on connaît mon délit. Et je peux très bien me manger un coup de couteau tous les 5 minutes, comme tous les 5 heures, comme jamais. Je sais pas. Donc, en révélant mon délit, plus ma différence, ben, ils ont appelé au lynchage de ma tête, quoi. Donc, comme je suis paxé avec un monsieur qui ressemble plus à une armoire à glace, il y a un petit nain de jardin, j'ai un petit peu la paix. Mais disons que je ne sortirai pas seul ces prochains jours et ces prochains temps, ça c'est sûr. Voilà. Parce que bon, les ennuis, je les ai eus au centre de détention. Je pense que je vous en avais informé. Je les ai eus, les ennuis. Faut pas espérer, faut pas croire, hein, ça va pas s'arrêter demain parce que je suis avec quelqu'un. Ça c'est pas vrai, ça c'est dans les écrits, ça. C'est de la science-fiction, ça c'est pas vrai. Dès que Pascal aura le dos tourné, s'il y en a qui veut me sauter dessus, il va me sauter dessus. Ça, faut pas se faire d'idée. Du point de vue détenu, ça s'est calmé. C'est point de vue surveillant et puis gestion de mon cas qui est devenu un petit peu plus compliqué pour eux. Parce que dorénavant, je m'assume. Je lève la tête, et celui qui n'est pas content, et ben c'est très simple. Allô, avocat, c'est tout. Alors, ils n'apprécient pas, mais moi, j'apprécie pas qu'ils m'embêtent. S'ils veulent pas qu'on parle de moi, ils n'ont qu'à pas m'embêter. J'en parlerai pas, ça n'arriverait pas. Et comme ça arrive encore, ben voilà.
Mais parce que là, du coup, de ce que tu nous avais dit, on avait l'impression que c'était quand même plus simple avec les détenus et que c'était plutôt avec les matons qui avaient des problèmes.
Au début, c'était avec les détenus. Tout au début, quand j'ai commencé à m'assumer, c'est vrai que ça leur fait bizarre de voir quelqu'un sortir de sa cellule en t-shirt rose et puis avec une poitrine qui commence à gonfler. Bon, puis en plus, le CPCAN est réputé pour être, on dira, majorité histoire de mœurs. Donc c'est vrai qu'au début, c'est eux que j'ai subi. Ben, les viols, c'est eux, c'est pas les surveillants. Hein. Mais d'après que j'ai rencontré Pascal, les détenus n'osaient plus s'approcher. Mais les surveillants, ils m'ont donné un cœur chaud, quoi, au début. Alors, ça a été de tout. Hein. La pantouse, le travelot, la draculine, c'est-à-dire que eux, ils le font, mais légalement. Voilà, les détenus le font, mais ils savent qu'ils risquent des sanctions. Les surveillants le font parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Voilà, c'est tout. C'est un petit peu, c'est la loi de l'intérieur. Il n'y a pas de loi qui gère les prisons. C'est la loi qui est dedans. c'est tout. Il n'y a pas une loi qui dit dehors, ah, dans les prisons, ça doit être comme ça. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, on le fait par écrit, mais c'est pas ce qui se passe. La loi dans les prisons, c'est la loi des surveillants. Nous, après, on est derrière. C'est très simple. Quand ils font une manifestation, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils nous prennent, nous, êtres humains, en otage, puisqu'ils bloquent les prisons. Donc voilà, on est des otages. On est un petit peu leur bouée de secours quand ils ont un problème. Voilà. Alors forcément, ils font un petit peu ce qu'ils veulent dedans. Alors bien sûr, tous les surveillants ne sont pas comme ça. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui sont très tolérants, très acceptables. Par contre, il y en a d'autres qui n'apprécient pas du tout. Mais depuis le suicide de Nathalie, ils ont un petit peu tendance à mettre le pied sur le frein parce qu'ils savent que moi, avec tout ce que je me suis fait, ça peut partir en vrille directement, quoi. Parce que moi, je n'accepte plus, c'est fini, c'est terminé, ça. Moi, la première personne qui dit quelque chose, peu importe qui c'est, je dresse la tête et puis je montre mes dents. C'est fini. Je ne peux plus accepter qu'après tout ce que j'ai souffert, qu'on continue à souffrir. Ça doit arrêter, tout ça. Les transsexuels en prison actuellement, c'est une horreur. C'est une horreur. Je connais une transsexuelle du côté de Saint-Martin-Bray qui a failli se suicider. J'en ai à Fresnes et à Fleury qui vont pas bien. Et moi, j'ai gagné les pages du journal officiel pour que, enfin, on puisse être reconnu. Je vois pas pourquoi on ne les lit pas, ces pages. On a l'impression que d'un seul coup, ça y est, l'administration pénitentiaire ne sait plus lire. Oui, mais non, c'est écrit. Ça a été discuté à l'Assemblée nationale. C'est dans le journal officiel. C'est M. Denarue qui les a sortis. Il a enquêté, il n'a pas fait ça à la légère. Voilà. Donc, après le décès de Nathalie, il s'est passé que ils se sont posé un petit peu la question en disant « Oh, faudrait peut-être pas qu'il y en ait encore une deuxième, parce que ça va commencer vraiment à faire un petit peu effet boomerang, ça va se retourner, quoi. » Voilà. Donc, ils font un petit peu plus attention, mais ça les empêche pas, t'as toujours... Dehors, tu sais, dedans, c'est comme dehors. Dehors, t'as la foule. Dans la foule, il y a toujours quelqu'un qui est vraiment pas bien dans sa tête. Là, dedans, c'est pareil. On a des bons, des mauvais. Dehors, t'as des bons, des mauvais. Voilà. Simplement, dedans, tu peux rien faire. Dehors, tu peux faire.
Je voulais savoir si du coup toi tu étais en contact avec le contrôleur général des prisons sur ta situation, oui. Sur la situation des trans, des prisonniers et prisonnières
oui,
trans.
Ben, le contrôleur général des prisons a fait les pages du journal officiel après avoir appris que je m'étais coupé bon bref tout et que j'avais posé ça sur la table. Il a été un petit peu affolé, il a fait une enquête, il a enquêté aussi à Fresnes, à Fleury-Mérogis, il a enquêté je ne sais plus où, et suite à ça il a sorti les pages du journal officiel.
Toi, du coup, tu es en contact régulièrement pour rappeler ce que tu peux vivre ou ce que d'autres personnes que
ah
tu
oui,
rencontres
oui,
vivent.
Régulièrement. C'est-à-dire
d'accord.
Que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je tape sur la table. Je ne cherche pas à comprendre. Là, ils viennent de faire une note pour les transsexuels. Enfin, pas pour les. Une note pour moi. Uniquement pour moi. Alors, je vais vous la raconter, elle va être jolie. La note dit. Alors, avant, j'avais le droit. J'étais fouillé par une femme pour le haut et un homme pour le bas. Du fait que j'étais sain et du fait que j'avais encore un truc entre les jambes. Donc, la note de service disait. Tu seras fouillé par une femme pour le haut et puis une femme pour et puis un homme pour le bas. Bon, c'était pas une note de service, c'était un accord sur papier comme ça. Mais oui, mais non, surtout pas. Oula, la direction de l'administration pénitentiaire a répondu une note derrière en disant dorénavant Vilain Chloé sera fouillé par un homme, intégralement nu si nécessaire, et s'il n'est pas content, moi j'ai demandé, j'ai dit, et si je refuse, il se passe quoi? Eh ben, on appelle 5-6 surveillants, plaque à terre, on te fout à poil, puis on regarde, puis on dit Trabi, tu t'envoies pas fouiller. Elle fait mais. Je pense qu'il ne serait pas bon de faire ça. C'est pas pour vous mettre en alarme, mais il ne faut pas faire ça. Parce que la réaction derrière, elle va suivre vitesse grand V. Alors forcément, on a tapé sur la table, monsieur Delarue a demandé ce qu'elle voulait dire cette note, parce qu'elle était quand même très atteinte à la vie privée d'autrui. Ça, il n'y a pas photo, on ne peut pas faire ça. Puis à partir du moment où on me demande d'exhiber ma poitrine, ben dans ces cas-là, puisqu'ils disent que je suis en détention homme, je dois être fouillé comme un homme, ben je vais faire comme tous les détenus. Ben après tout, puisque la note, elle dit que je suis un homme, je vais faire comme tous les détenus. En plein été, quand ils vont bronzer torse nu dehors, ben moi, je vais me mettre torse nu avec les garçons dehors. Ils m'ont dit non, surtout, t'as pas le droit de faire ça. Mais ben, faudrait savoir, vous dites que je suis un homme, mais j'ai pas le droit de me mettre torse nu alors que les autres, ils le font. Ah oui, mais non, tu comprends. Non, je fais non, je comprends pas. Non, une note dit que je suis un homme, c'est un homme, faudrait savoir ce que vous voulez. Alors, on est en train d'essayer de se battre pour tout ça, les avocats sont sur l'affaire. Maître Benoît David est dessus, l'association qui a à Caen qui s'occupe de moi. Entrée à Ango, la LDD, la maison des diversités, que je vois tout, quasiment à chaque permission. Hein. Elle suit aussi l'affaire, les députés suivent l'affaire et tout. Moi, je lâche rien, je lâche plus rien du tout, c'est fini. Si j'apprends qu'il y a une trans en prison qui va pas bien et qu'elle n'obtient pas ce que moi j'ai légalement, ce qui est écrit sur papier, je comprends pas pourquoi il y a des demi-parts et des demi-mesures. Non, il faut arrêter ça. On souffre beaucoup trop parce qu'on nous laisse en prison homme. Je pense qu'il faut arrêter. Voilà.
Et comment ça se passe pour ton traitement hormonal? T'arrives à le suivre ou t'es au fond du problème?
J'ai retiré, on dirait que je me suis coupé les deux. Bon, bref, on va passer le nom parce que j'ai souvent beaucoup de mal à le dire. Mon corps n'a plus d'apport d'hormones. Parce que un homme vit avec ce que fabrique ces deux choses en apport hormonal pour son corps. La voix, les poils, les cheveux, les dents, les muscles, tout ça. C'est les hormones que son corps fabrique. Et son corps fabrique des hormones grâce à ces deux choses. Comme je les ai coupées, il faut forcément un apport hormonal quelconque, ou homme ou femme. Mais comme j'avais déjà commencé un traitement féminisant, il aurait été très dangereux de me donner l'inverse. Donc, pour mon traitement hormonal, maintenant, c'est réussi.
Et ça pose pas de problème? Ils font pas de problème pour que tu aies tes hormones et
tout? Ils donnent pas. Ils ont décidé, l'équipe de Fresnes, l'établissement public de santé de Fresnes, ont décidé de ne plus s'occuper de transsexuels en prison. Ça, c'est très clair, voilà. C'est-à-dire que les trans qui y a à Caen n'iront jamais à Fresnes. Il faut qu'ils demandent leur transfert soit sur Marseille, soit sur Bordeaux, soit sur Toulouse. Et ça, il n'en est pas question, ils ont leur famille dans le coin. Je ne vois pas pourquoi eux, ils devraient partir. L'établissement public de Fresnes n'a pas refusé une patiente. La loi est la loi pour tout le monde. Un centre hospitalier ne peut pas sélectionner le genre de patient qui désire soigner. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, faut arrêter, là. Donc, l'établissement public de Fresnes a décidé de ne plus s'occuper de transsexuels. Alors qu'ils ont tout sur place. Ils prétendent que non. Mais moi, j'y suis allé. Donc, je sais qu'ils ont tout. J'y suis allé pendant 6 mois. Ils ont l'hôpital Cochin, l'hôpital Foch, ils ont l'hôpital Saint-Louis où il y a le chirurgien, ils ont l'hôpital Cochin où il y a le docteur Cordier, Brémoré, l'endocrinologue. Ils ont tout sur place. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas, non? Ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc, actuellement, tous les transsexuels actuellement en prison ne sont pas suivis. Ils n'ont pas d'équipe. Ils essaient d'intégrer des protocoles, mais on ne leur autorise pas puisque ça n'existe pas. Pour eux, du moins, parce qu'elles sont en prison. Il faudrait en clair qu'une équipe s'organise, s'installe et dit, bon, voilà, nous on va se mettre à tel endroit, on va créer une équipe pluridisciplinaire et on va s'occuper, mettons, du centre de détention de Caen et on s'occupera des transsexuels qui viendront à Caen. Voilà, t'as une équipe. Eh bien, ils sont en train de faire ça. Le seul ennui, c'est que l'agence régionale de santé répond pas. Tous les médecins, ils ont signé l'accord, ils ont tous signé les papiers et tout pour créer ça à Caen, pour s'occuper des transsexuels du Calvados, mais aussi celles qui sont en prison ici. L'ARS ne répond pas. Reste muette. Donc, et nous, pendant ce temps-là, on meurt, tout simplement. Donc, je suis la seule hormonée, mais les autres qui hurlent à tort, pas à tort, mais à cri de souffrance, nous, on veut nos hormones, on est comme ça. Ah oui, plus tard. En clair, ils te font traîner jusqu'à temps que tu le point de sortir, comme ça, tu vas te faire soigner dehors. Pour faire des gars, parce que tu n'es pas en prison. Voilà ce qu'ils font.
On se demandait si t'allais demander un changement d'état civil ou pas.
C'est fait.
C'est fait.
Mon prénom, il est officiel depuis septembre 2010. C'est-à-dire, officiellement, je m'appelle Chloé. Sur ma carte d'identité, c'est écrit Chloé. Ça, on n'en parle plus. J'ai demandé mon changement d'identité sexuelle. J'étais un petit peu déçu de la réponse, mais bon, le juge a dit, bah oui, non, mais pas de problème, voyons. C'est tout à fait normal. Vous êtes enceinte, là, vous êtes présentée. J'y suis allé à pied en permission, alors c'est pour vous, avec mon sac à main et tout, voilà. Non, il n'y a pas de problème, nana, mais on veut une expertise psychiatrique. Ah, ben, ça fait quand même la 9e, il faut arrêter, il y a un moment, on dit stop aux expertises psychiatriques. Bon, j'ai dit, ben, à contre-cœur, je suis bien obligé, je n'ai pas le choix de la faire. Puis la dernière expertise, elle dit simplement qu'on se trouve en présence d'une réelle transsexuelle et qu'il est vivement souhaitable de lui changer son identité sexuelle sur sa carte. Et il reconnaît aussi dans l'expertise que le centre de détention ainsi que la médecine m'ont bien fait souffrir durant des années et que ça n'aurait jamais dû arriver. Et l'ordonnance sera rendue 10 février.
Du coup, est-ce que tu penses qu'une fois que ça sera définitivement réglé, tu risques à un moment donné d'aller en détention pour femmes?
Alors, je l'ai déjà demandé parce qu'il y a une jurisprudence. La cour anglaise, il y a une transsexuelle pour homicide en Angleterre qui a demandé son changement d'établissement pour aller chez les femmes. Elle était à peine hormonée, à peine sa transformation commençait, était minime, quoi. Elle avait pas le droit de se maquiller, pas le droit de s'habiller en jupe ou simplement par des accords tacites, bon bref. Elle a demandé, on lui a refusé, elle a attaqué à la Cour européenne, elle a gagné, elle était transférée chez les femmes. Alors moi j'ai dit, et oh, c'est l'Angleterre, c'est la Cour européenne, donc il y a jurisprudence, donc je demande à aller chez les femmes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas photo. Moi, je suis quand même hormoné, j'ai une poitrine, je me maquille, je mets des jupes, j'ai des longs cheveux. Je demande à aller chez les femmes. Et ça fait 2 ans qu'ils ne répondent pas. Voilà. Ça, c'est la façon de l'administration pénitentiaire. Demande-nous ce que tu as bien, on t'expliquera comment t'en passer. C'est ça. Donc, j'ai la note. On a bien reçu votre courrier du 26 mai, alors que je l'ai écrit au mois d'avril, et ils m'ont envoyé la réponse au mois d'août l'année dernière. On a bien reçu votre courrier du 26 mai, voici la réponse. Ce n'est pas non, enfin, il faut comprendre comme ça, hein. C'est pas non, mais c'est pas oui, mais le code de procédure pénale dit que les centres de détention sont pour hommes, et donc les hommes, et pour femmes, c'est des femmes. Et moi, j'ai répondu oui, mais le code de procédure pénale change en fonction des jurisprudences. Je vous demande donc de prendre note de la jurisprudence anglaise, de manière à rectifier aussi ça. Eh ben, ils n'ont jamais répondu. J'ai beau relancer, hein. Quand je relance, oh, on attend, puis bon, ben, on attend encore, quoi, voilà. Donc, il est certain que, au mois de février, si la justice décide que je suis reconnu comme une femme sur ma carte d'identité, il est certain que dans l'heure qui va suivre, je suis transféré. Ça, il n'y a pas photo. Simplement, on m'a bien fait comprendre que jamais ça n'arrivera. Parce qu'ils ne veulent pas de jurisprudence en France. Et comme je suis pas très loin de la fin de peine, ils me mettent vivement la pression pour me foutre dehors avant. Comme le traite de la CGT. On m'a traité nationalement de mâle ou femelle. Bon, ben, comme ça, c'est parfait, on est content, voilà. Cadeau. Mais eux, ils ont le droit de faire ça. Moi, j'ai pas le droit. Là, il y a 10 jours, j'ai été condamné à payer 50 € d'amende et puis j'ai eu 15 jours de prison supplémentaire parce que j'ai dit connard. Bah oui, mais le traite de la CGT où il m'a incité de mâle ou femelle nationalement, ben non. Puis le premier surveillant qui a refusé d'exécuter un ordre de mission, c'est pas une demande banale. C'est-à-dire en clair, l'administration pénitentiaire, la DAP dit vous devez transférer Vilain d'un point à un autre pour qu'elle aide se faire soigner. Ben non. Il est venu me voir en me disant, j'ai prévenu la direction, je ne ferai pas l'ordre de mission parce que tu es en jupe. Bien, ben voilà, c'est tout. Mais non, ça c'est normal. Mais toi, nous, enfin pas toi, mais nous, quand on refuse quelque chose, ben on se retrouve au QD. Tu aurais dû en partir. Et moi, comme ça, bêtement, comme n'importe qui, hein. J'ai fait, oh, connard, là. C'était pas méchant, c'était pas volontaire, c'est sorti comme ça. Et l'autre, il a dit que c'était à lui que je l'avais dit. Bon, ben c'est bien. Il demandait 2 mois et 500 €. Le tribunal a fait le jugement en termes féminins. J'ai été considéré comme une femme de A à Z, et ils ont estimé qu'au centre de détention, on s'était bien moqué de moi. Et que je ne suis pas allé au jugement. Le juge les a dit. On vous avait dit de l'autoriser à venir en jupe. Vous avez encore refusé. Mais en quoi ça vous embête qu'elle soit en jupe? Et du coup, bah, c'est pour ça qu'elle a gagné que 50 € et j'ai gagné que 15 jours. Donc je ne veux pas. On va laisser un petit peu de côté. C'est pas méchant. Ça me fait un petit peu rire tout ça, parce que maintenant, tu as tous les détenus du centre de détention. À chaque fois qu'il le voit, il dit bon, bah, on va peut-être faire une quête hein, quand même pour lui donner 50 € parce qu'il va être malheureux. Histoire de rigoler, quoi. Mais bon, tout ça, c'est stupide, c'est des banalités. Il y a des choses qu'il faut pas oublier. C'est que j'ai déjà payé cette dette-là. J'ai fait quand même 4 jours de mitard. Mais 4 jours de mitard, dans des conditions, je crois que le chenil pour les chiens est plus beau. On m'a pas donné mes lunettes. On m'a pas donné mon traitement. On m'a donné des efferingants, mais on m'a pas donné de verre d'eau. Des efferingants effervescents. Je l'ai fait, je sais comment pour les prendre. On m'a donné une seule couverture en papier, rien pendant 4 jours. Les murs plein de moisissures, j'ai payé cette dette. Ben non, lui, par derrière, il a été porté plainte au tribunal pour avoir une deuxième enquête de condamnation, quoi, pour la même chose. On en rigole plus maintenant parce qu'on réfléchit que c'est vraiment stupide, c'est une vraie bêtise.
Parce que tout à l'heure, tu disais que ça t'arrivait quand même assez régulièrement de sortir en permission. Est-ce qu'il y a des gens qui te soutiennent, du coup, à l'extérieur, que tu peux aller voir dans ces cas-là?
Oui, j'ai une personne qui s'appelle André. Elle est étudiante, elle travaille pour l'association MDD des diversités de Caen. C'est une transsexuelle, hein, elle est en transformation. Mais c'est vrai qu'elle est, elle, comme l'association inter-LGTB de Caen, ils sont très intéressés par mon combat parce qu'il se passe dedans, pas dehors. Et moi, j'ai franchi toutes les étapes. J'ai fait le protocole, j'ai vu les médecins, j'ai vu le chirurgien, j'ai vu l'endocrinologue, j'ai obtenu mon traitement en prison, ce qui n'est jamais arrivé parce qu'aucune trans ne démarre un traitement hormonal dans une prison. Aucune. du fait que moi j'y suis arrivé, ben maintenant les autres elles le peuvent. Il y a eu tout ça qui a fait que j'ai été connu et puis j'ai contacté cette association qui à chaque fois que je veux en permission je vais chez elle, puis on va au tribunal, on va au CHU, on va faire les examens et tout. Et ils m'encadrent de très très bien, mais c'est une toute petite association, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de subvention, donc ils ont du mal à aider d'autres personnes comme moi. Voilà. Alors je fais ce que je peux et puis elle fait ce qu'elle peut. Mais elle est, honnêtement, c'est une acharnée, hein, c'est une militante. À mon avis, on la voit comme au temps de la Révolution, c'est des barricades avec un drapeau. Là, elle fait 100 km pour venir me chercher ici, pour me conduire à Caen. Voilà, ça c'est Andrea. Je pense que d'ici 15 jours, je crois, il y a du nouveau qui va tomber et à mon avis, on va mettre un grand coup de pied dans cette meute d'aveugles, parce qu'ils sont vraiment aveugles à notre souffrance. Puis, il faut que ça cesse, Là, le coup de Nathalie a été trop, ça a été une chose de trop et ça ne peut pas continuer. Voilà. Parce que moi, je l'ai connue, elle était en face de chez moi et tout. Je l'ai connue, Nathalie, donc elle est arrivée après moi, elle a essayé de se battre et tout, on s'est moqué d'elle.
T'as envie de parler un peu de l'histoire de Nathalie ou...
Ah, mais moi ça me dérange pas, je peux parler de Nathalie. Actuellement, je suis la seule personne à avoir été sur sa tombe. Elle a été enterrée au quartier des indigents, il n'y avait qu'un seul ami, c'est son ami du moment. Il a été à l'enterrement, il y avait deux personnes de l'administration pénitentiaire qui étaient là simplement pour faire acte de présence, mais à 30 mètres de la tombe, histoire de ne pas être sur les photos. Moi, je suis allé sur la tombe, quartier des indigents, sa famille l'a complètement abandonnée, personne ne s'occupe de la tombe. Alors, elle était très... Quand elle est arrivée, elle est venue me voir. Et j'ai dit, écoute, il y a deux façons de se battre. Tu te bats en silence, comme pendant, on dira, la guerre, les résistants dans leur coin et tout, mais qu'ils arrivent, ou tu te bats en hurlant, et là, tu vas te manger tous les coups. J'ai dit, reste calme dans ton coin, c'est le progressivement. C'est-à-dire un petit peu tous les jours. Tu vas voir. Tu vas les emmerder un bon coup, et puis forcément à la longue, comme ça sera du fait, ça sera du acquis. Voilà, c'est tout. Bon, au début, ça a un peu marché, puis elle a un petit peu cafouillé. Elle était un petit peu sur une voie de garage, elle s'en sortait plus. Sébastien m'a demandé ce que je pouvais faire pour elle. Moi, je lui ai donné un type, une lettre type, adressée à deux, trois adresses que je connaissais. Sa situation s'est redébloquée, puis tout après est parti en vrille. L'administration s'en est mêlée, les détenus ont commencé à la taquiner, ils ont commencé à ne plus arrêter de la fouiller à poil pour vérifier, ils ont commencé à dire monsieur, ils ont commencé à faire plein de choses comme ça. Ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée en quartier différentiel, qui est un quartier d'isolement. Et elle était juste en face de chez moi, deux étages, en dessous. Et comme c'est défilé, on voit ce qui se passe, on ne peut pas la louper. Voilà. Puis un bossin, ben, elle a mis une corde, un câble électrique, elle s'est accrochée, puis elle a sonné. Avant de s'accrocher dans l'espoir qu'on venait à son secours. Mais on n'est pas venu à son secours. Ou trop tard. Voilà. C'était une petite bonne femme. Elle faisait quoi? 1m65-70. Cheveux courts. Se prenait toujours avec son sac à main. On lui disait jamais rien. Elle allait même au repas avec son sac à main. Et qu'au moment, on a commencé à lui faire des histoires, quoi. Et tout le reste s'est enchaîné. La dépression est venue tout doucement. Et puis, le geste irrévocable est arrivé. Et puis, le tribunal qui n'a pas accepté son changement de prénom, ça a été aussi un petit choc. Mais il est vrai que pour le changement de prénom, il faut justifier qu'on l'a depuis quelques années, quoi, qu'on vit avec. Il faut justifier de papier quand on reçoit des courriers à ce prénom-là. Qu'on peut... Et Nathalie n'avait pas ses papiers. Donc le tribunal, il est un peu certain qu'ils auraient dit non au démarrage, quoi. Et tout au moins, ce qu'ils auraient pu, c'est lui donner provisoirement le temps de faire une enquête ou de justifier. Ça aurait été provisoire, au risque que ce soit non et qu'on les retire. Mais au moins, pendant ce temps-là, elle aurait pu se débattre comme elle le pouvait. Mais non. Ça n'a aucune chance. Voilà. Ça, c'est Nathalie.
Ben, merci pour ton témoignage.
Mais c'est normal, voyons.
Et puis, du coup, ben, on attend de tes nouvelles et on reste en contact.
Mais surtout, si vous avez d'autres personnes comme moi, ouais. Faut pas baisser la tête. Jamais. Parce qu'à partir du moment où on baisse une seule fois la tête, on montre qu'on est faible. Et c'est fini. On a les détenus comme les surveillants sur le dos après. Voilà. Ça, c'est très clair. À partir du moment où on fait un pas en arrière, c'est fini. On n'est plus crédible. On est faible, on est fragile, tout le monde nous saute dessus. Il faut pas. C'est que quand on dresse la tête et qu'on dit, bon, allez, je m'assume, c'est un réel bonheur. C'est le pied, mais alors le pied total, parce que on rentre ça dans sa cellule et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je dois être complètement pas bien dans ma tête. Mais alors, quel bonheur quand tu t'endors avec le sport, tu t'endors avec un sourire que tu n'as pas eu depuis très longtemps. Il faut jamais baisser les bras.
auf dem Titelblatt bist du eine Hete, sagt die Norm. Für das allgemeine Auge bist du eh nur eine Form. Kein Charakter, keine Haltung, keine Meinung zu nix. Ich will sie anschreien, dass du hier die Entscheidungen triffst. Ich hab dich immer schon gesehen, seit ich ein kleines Mädchen war. Hab versucht, mich dir zu nähern, auf verschiedenen Wegen zwar. Aber letzten Endes habe ich dich immer begehrt. Wegen deiner Schönheit, deinem inneren Wert. Und sie wandern auf dir, meine zielsicheren Blicke auf deinen Körper, den du fein dekoriert hast mit Spitze. Und ja, ich bin ehrlich, ich mag mit dir in die Kiste. Zumindest will ich auf diese Fantasie nicht verzichten. Du bist heiß, verdammt, und ich bleibe dran. Such dich einfach weiter, weil ich es mir nicht verkneifen kann. Ich kenn dich zwar nicht, doch ich hab Sehnsucht danach. Und wünsch mir, dass ich an deiner Seite leben darf. Bist du schön, ich bin Feuer und Flamme. Für diese feurige Flamme mit deinem teuren Verstand. Sie steckt die Beine übereinander, es wird feucht und warm. Ich wünsch mir, dass ich heute noch dazwischen träumen darf. Boah, bist du schön, ich bin Feuer und Flamme. Für diese feurige Flamme mit deinem teuren Verstand. Sie steckt die Beine übereinander, es wird feucht und warm. Ich wünsch mir, dass ich heute noch dazwischen träumen darf. Ich könnte ein ganzes Jahr darauf verwenden, mich daran zu erfreuen, wie deine Haare glänzen. Puder, Pumps, Parfüm, Funk, ich mag dich beschenken. Ruhe mich zerfließe beim Gedanken an deine zarten Hände. Du sprichst Funken in mein Herz mit deinem Augenaufschlag. Und dein zuckersüßes Lächeln ist, was dich zauberhaft macht. Ich folge rechts und links deinem üppigen Hüftschwung. Suki kriegt kein Ton raus ab dieser Verzückung. Ich leg Schreibpausen ein, um mich wieder runter zu kochen. Du bist ein Mensch, kein Anlass hier auf Wunder zu hoffen. Du beherrschst es perfekt, dein Spiel mit Illusion. In der Weise, wie du deine Gruben und Linien betonst. Klar, das ist nicht 24-7 unbedingt. Dein Frühstück in einer Trainingshose und ungeschminkt. Deine Performance als Femme ist, worin ich dich verorten kann. Und eines Tages nimmst du dann mein Wort in Empfang. Träume pendeln, um Räume kämpfen, nicht die Freundin von und Leute fremdeln. Ambivalent, kein Mann, der sie kennt, sie hat mir das eine und das andere geschenkt. Sicher, das gewissenhaft, wünsche wir Grenzen mitgedacht. Splitternackt, Mitternacht, Sprecher, der uns sicher macht. Boah, bist du schön. Boah, 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 bist du schön. Boah, bist du schön. Boah, boah, bist du schön. Boah, bist du schön. Ich bin Feuer und Flamme für diese feurige Flamme mit deinem teuren Verstand. Sie steckt die Beine übereinander, es wird feucht und warm. Ich wünsch mir, dass ich heute noch dazwischen träumen darf. Boah, bist du schön. Ich bin Feuer und Flamme für diese feurige Flamme mit deinem teuren Verstand. Sie steckt die Beine übereinander, es wird feucht und warm. Ich wünsch mir, dass ich heute noch dazwischen träumen darf.
Voilà donc pour cette interview de Chloé Villain qu'on a fait par téléphone pendant sa permission, alors qu'elle était encore dans sa chambre d'hôpital et qu'elle allait retourner donc dans sa cellule quelques heures plus tard. Donc on avait bien envie de la diffuser cette interview parce qu'on la trouve hyper intéressante et voilà que ça nous fait écho sur plein de trucs sur comment elle arrive à lutter en prison et à lutter en tant que trans et du coup à lutter en tant que trans en prison et du coup comment ça aussi ça mêle les luttes anticarcérales, les questions de genre et puis le poids de, à la fois d'un côté de l'administration pénitentiaire et de l'autre de l'administration hospitalière et psychiatrique et enfin voilà tout ce qui va avec et comment quand même elle arrive à garder la pêche et à avoir le moral là-dedans du coup ça nous faisait quand même un peu chaud au cœur de l'avoir au téléphone.
Oui, puis c'est une sacrée personne, enfin elle dégage quand même quelque chose et c'est quelqu'un qui lâche pas et c'est vrai que c'est assez impressionnant d'entendre quelqu'un comme elle qui se bagarre et qui lâche rien et qui a rien prévu de lâcher et qui en plus est hyper solidaire, je trouve quand même avec ses autres compagnes de galère, quoi. Et c'est quand même rare des personnes qui disent ça, qui ont cette personnalité-là et cette manière d'être, quoi. Donc respect, c'est sûr.
Voilà, et puis en espérant que peut-être un jour, elle viendra nous voir, parce qu'elle en a très envie. Elle nous a dit quand elle sortirait de prison, et comme on espère qu'elle sortira bientôt, et bien ça se trouve, elle sera bientôt dans les studios. Moi, je voulais juste refaire une petite précision par rapport à ce qu'elle a dit. À un moment, elle a parlé d'un track de la CGT, Donc il faut savoir que, donc, comme vous l'avez compris pendant l'interview, elle a fréquemment des petits problèmes avec les matons qui n'acceptent pas du tout sa situation et du coup qui lui envoient plein de trucs sexistes, transphobes, homophobes, tout ce qu'on veut dans la gueule. Et notamment, à un moment, c'est carrément la CGT, le syndicat des matons, qui avait publié un tract au niveau national en l'insultant et en disant, en parlant d'elle, en disant que c'était un détenu dont on ne sait pas s'il est mâle ou femelle et qui nous enquiquine pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, c'est des petits exemples de choses comme ça qu'elle peut vivre au quotidien et qu'elle, elle vit en tant que trans et que d'autres personnes peuvent vivre aussi en tant qu'autre chose quand on est en prison. De toute façon, c'est ce qu'elle dit, c'est que en fait, c'est la loi de, c'est eux qui ont le pouvoir et qu'eux, ils peuvent bien se permettre de dire ce qu'ils veulent. Il n'y a jamais personne pour venir leur taper sur les doigts, alors qu'en face, quand des détenus essayent de répondre, eh ben, ils se prennent du mitard, de l'isolement et tout ça.
Oui, puis du coup, cette habitude aussi de l'administration pénitentiaire de séparer et de cantonner, enfin de catégoriser les prisonniers et que, enfin, c'est aussi ce qu'elle explique un peu de plus il y a des comportements comme ça, plus aussi c'est une porte ouverte pour que d'autres prisonniers aussi se comportent comme ça vis-à-vis d'elle et que c'est aussi facile de créer justement ces séparations et ce qui quand même mène aussi à sa copine à un moment donné dont elle parle qui se fout en l'air et que c'est juste parfaitement inacceptable et que en fait, je n'ai pas de réaction par rapport à ça. C'est un peu hallucinant parce que c'est juste pousser quand même quelqu'un à bout. Et je pense que la prison en soi, c'est déjà assez horrible comme ça pour ne pas s'en prendre plein la tronche de la part des co-détenus au quotidien. Quoi.
Voilà, donc un exemple de témoignage qu'on avait envie de passer. Et aussi, on avait envie d'interagir sur cette question de contrôleur des lieux de privation de liberté. Là.
Sur Delarue, ouais.
Du coup, Chloé, elle dit qu'elle est en contact régulier avec lui et que plutôt c'est un truc qui fait avancer son cas et que c'est quand même plutôt un truc de soutien par rapport à elle, sa situation.
Ce qui d'ailleurs est tant mieux pour elle. Et puis c'est vrai qu'on a eu d'autres histoires comme ça de prisonniers et prisonnières qui ont pu trouver... j'ai horreur de ça, parce que pour le coup, c'est pas un allié, mais un espèce de soutien, en tout cas quelque chose qui a permis de faire bouger les situations. Et on pense notamment à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles où pouvoir montrer du doigt et dénoncer un système de privilèges et de favoritisme bien excessif à la maison d'arrêt de Versailles et de faire tomber du coup le directeur de cette maison d'arrêt. Et que du coup, il y a eu aussi ce truc qui a quand même été, s'est positionné, a quand même vachement soutenu les prisonnières qui ont dénoncé et qui du coup sont mis en avant en montrant du doigt ce qui s'y passait. Et que du coup, tant mieux qu'à des moments ça serve et qu'ils servent à quelque chose, quitte à ce qu'ils soient payés, autant que ça serve à certains et certaines à des moments. Après, la réalité, c'est quand même la majorité des courriers qui lui sont envoyés sont traités et sont répondus par une espèce de lettre type, de réponse type de en gros oui on a pris en compte votre demande et on la traitera à l'occasion si on s'intéresse à cette prison ou on le met dans le tas qui concerne cette prison merci au revoir et que du coup c'est quand même aussi une espèce de réalité une réalité que c'est très récurrent que voilà ça soit quelque chose de... j'ai perdu ce que je voulais dire c'est super pratique.
du coup c'était ce truc de dire des fois c'est utile du coup ce genre d'institution que ce soit le contrôleur ou d'autres qui font quand même
l'OIP,
un peu
par exemple
l'OIP, qui ont quand même des échos médiatiques et qui arrivent des fois à faire bouger des trucs mais par exemple le contrôleur on a l'impression qu'il fonctionne vraiment beaucoup sur l'effet médiatique
aussi,
et que si quelque chose n'est pas médiatique eh bien ça l'intéresse pas. Et du coup, voilà, il envoie des courriers types en disant peut-être que dans 6 mois, on s'intéressera à votre situation quand de toute façon, la personne a été transférée depuis. Du coup, on arrive à la fin de l'émission. On avait une petite info insolite quand même à dire avant de partir.
Une info insolite. Je voulais revenir sur une émission qu'il y a eu sur France Inter le 4 octobre et qui m'a quand même pas mal interpellée, qui s'appelait Grande-Bretagne, les cigarettes bannies des prisons, et qui abordait le fait qu'à partir de 2015, les prisonniers anglais ne pourront plus fumer, et, ce qui correspond quand même à 80% de la population carcérale britannique, donc ça fait quand même beaucoup de personnes concernées. Et du coup, au-delà d'expliquer qu'au Canada, en Nouvelle-Zélande ou à l'île de Man, de telles mesures sont déjà appliquées. La journaliste insiste notamment sur le fait que c'est merveilleux parce que ça s'est mis en place sans provoquer d'émeutes ni rien du tout et que du coup c'est génial et qu'elle est quasiment en état de transe en se demandant quand est-ce que ça sera aussi appliqué en France et tout ça. Et que quand même c'est important de préciser que cette journaliste a juste oublié d'évoquer le fait que cette interdiction, elle a quand même provoqué au Canada et en Nouvelle-Zélande un développement d'un marché noir de la cigarette au sein des prisons, qui ont forcément provoqué beaucoup de tensions entre les prisonniers, notamment avec des enjeux de pouvoir et d'argent. Que du coup, il y a eu aussi une augmentation des bagarres entre taulards autour de ces enjeux-là. Et du coup, aussi une course à tout ce qui pourrait permettre de pallier le manque à la cigarette. Comme par exemple au Québec, où les prisonniers se mettent à fumer les timbres de nicotine. Donc je pense que c'est une grande avancée sanitaire. Et ce qui est aussi hallucinant dans cette émission sur France Info, c'est qu'à un moment donné, la journaliste du coup interroge une professeure à l'école des hautes études de santé publique. Et celle-ci rappelle que le tabagisme passif tue et que cette mesure du coup permet de protéger Dixit les personnes qui travaillent en prison et qui sont incarcérées. Et j'avais quand même envie de dire que les risques de décès des personnes qui travaillent en prison, on a tendance un peu à s'en taper. Parce qu'au-delà de tout le bien qu'on pense des matons, ils ont quand même choisi leur taf et qu'à la rigueur, s'ils ont peur pour leur santé, ils n'ont qu'à juste changer de métier. On ne va quand même pas se mettre à pleurer pour eux. Il y a assez de gens qui le font. Et d'autre part, si on se met à interdire tout ce qui nuit à la santé et qui tue, on n'a qu'à peut-être commencer juste par interdire les prisons, ça serait une bonne chose. Et là, du coup, ça fait une petite conclusion anticarcérale hyper au top.
Et voilà, et du coup, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Donc l'émission, ce sera le mercredi 20 novembre 2013, toujours de 19h à 20h sur Radio Kaléidoscope. Salut.
Salut.